C'est parti pour le premier journal de votre matinale. Écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 5h.
Il y a certaines propositions qui sont quand même assez radicales et qui vont demander in fine du courage politique.
Dernière ligne droite pour la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens tirés au sort vont voter à partir de ce matin les mesures qu'ils retiennent et qui seront soumises à Emmanuel Macron.
C'est l'un des médicaments que nous consommons le plus, le paracétamol. Le gouvernement veut relocaliser en France sa chaîne de production.
Lyon vend debout contre Amazon. Le géant américain veut y installer un entrepôt XXL. Habitants et élus dénoncent un scandale climatique.
Ça démultiplie les nuisances du trafic routier, l'augmentation du fret aérien aussi. Donc on va avoir une augmentation très nette des nuisances à ce niveau.
C'est la preuve d'une justice aux ordres pour l'opposition. L'ancienne procureure du parquet national financier déclare avoir subi des pressions de sa hiérarchie lors de son enquête dans l'affaire Fillon.
Les dons d'objets explosent dans les communautés Emmaüs. Et oui, nous avons profité du confinement pour faire du tri à la maison.
Avec le confinement, on a fait des rangements, on a mis des choses de côté, et on a profité pour ranger la cave, pour débarrasser le grenier.
5h01 sur Europe 1, très bon réveil à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'était la réponse d'Emmanuel Macron à la crise des Gilets jaunes. 9 mois après le début de ses travaux, la Convention citoyenne pour le climat se réunit à partir de ce matin pour la dernière fois.
Les 150 citoyens tirés au sort vont débattre et voter les propositions qu'ils ont élaborées pour changer en profondeur la société.
Avant de les remettre à Emmanuel Macron, qui décidera ensuite si certaines mesures feront l'objet ou non d'un référendum. Claudia Bertram.
150 propositions sont sur la table. Après 9 mois de travail, Amandine Rogman et les autres membres de la Convention s'apprêtent à les voter.
Évidemment, nous, on va proposer des nouvelles choses, mais on va aussi proposer plus de contrôle, plus de suivi de choses déjà existantes. Il y a certaines propositions qui sont quand même assez radicales et qui vont demander in fine du courage politique.
Par exemple, la limitation à 110 km/h sur l'autoroute ou la fin de la publicité des produits les plus polluants. Certaines mesures ont été traduites en propositions de loi prêtes à l'emploi. Les citoyens doivent déterminer s'ils souhaitent en voir d'autres soumises au référendum, ce que défend Victor Costa.
Moi, je suis très attaché au référendum qui permettra à la population de pouvoir se saisir de ce sujet et puis de participer, un peu comme nous on a fait.
Ils ont jusqu'à dimanche pour trancher avant de rendre leurs conclusions à l'exécutif. Et Grégoire Frati attend Emmanuel Macron au tournant.
Il y a un enjeu énorme, il y a une attente. Qu'est-ce qui va être pris en compte? Comment? Pourquoi? La notion du sans-filtre qu'il avait mise en avant, et bon, on attend à ce que les parlementaires puissent débattre de toutes les mesures qu'on voudrait leur mettre dans les mains.
Le chef de l'État s'est engagé à revenir devant les membres de la Convention citoyenne pour leur faire part de ses arbitrages.
Et notez que Laurence Tubiana, la coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, sera l'invitée de Mathieu Béliard à 8h30.
D'ici 3 ans, nous allons relocaliser en France la chaîne de production du paracétamol.
Annonce faite hier par Olivier Véran, le ministre de la Santé, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron dans une usine Sanofi près de Lyon. Le paracétamol est un antalgique qui a été très utilisé au plus fort de la crise du Covid pour combattre les douleurs et les fièvres. C'est l'un des médicaments les plus consommés en France. Olivier Samain, qu'est-ce que le gouvernement veut relocaliser exactement ?
C'est la fabrication du principe actif que le gouvernement veut relocaliser en France. La fabrication du médicament est toujours présente sur le sol français, dans les usines de Compiègne et de Lisieux, par exemple, où Sanofi produit le Doliprane. Mais la molécule, elle, arrive de très loin, par bateau, sous forme de poudre, produite dans d'immenses usines chimiques en Chine et en Inde. La dernière usine produisant du paracétamol en France a fermé en 2008. Traduction du choix à l'époque de délocaliser en Asie ces fabrications qui sont polluantes, il faut le dire, en vue aussi d'aboutir à une réduction des prix. Dans les 3 ans qui viennent donc, la France devrait être en mesure de reproduire sur son sol le principe actif du paracétamol. Sur le plan technique, c'est tout à fait réalisable, nous ont dit hier les spécialistes que nous avons interrogés, à ceci près qu'il faudra régler la question de l'impact environnemental. Mais c'est surtout l'équation économique qu'il faudra redéfinir. Produire du paracétamol en France ou en Europe, ça coûtera plus cher que l'importer de Chine ou d'Inde. Il faudra donc accepter de payer quelques dizaines de centimes de plus sa boîte de gélules ou de sirop chez le pharmacien.
Les précisions pour Europe 1 d'Olivier Samain. J'ajoute que le directeur général de Sanofi France, Olivier Bogillot, sera l'invité de Mathieu Béliard à 7h40.
Europe 1, il est 5h04.
Il y a ceux qui les empruntent avec bonheur depuis le déconfinement et ceux qui pestent dessus au volant de leur voiture. Il s'agit des coronapistes.
Ce sont ces pistes cyclables provisoires installées pour éviter d'engorger les transports en commun depuis le déconfinement. Et on en trouve dans 150 communes un peu partout en France.
Et à l'approche du second tour des municipales, les coronapistes deviennent un enjeu électoral. Certains élus pourraient être tentés de les effacer sous la pression des automobilistes. Alors les cyclistes se mobilisent. Virginie Salmen.
1000 km de pistes tracées en jaune sur les routes de France. L'objectif pour les cyclistes, c'est qu'elles perdurent. Comme ici sur la D906 à Châtillon où Véronique circule tous les jours.
Ils ont dit qu'ils allaient mettre un budget en place pour pérenniser ces pistes, alors on attend. Hein. Mais moi je vote oui, hein, avec les deux mains et les deux pieds.
Pour les maintenir, il faut prouver qu'elles sont efficaces, donc utilisées. Pour ça, des citoyens se sont tout simplement mis à compter, comme Stijn van Oosteren.
On se met au bord de la piste cyclable et nous comptons tous les cyclistes qui passent, mais non seulement les cyclistes, mais aussi les voitures, les deux roues motorisées, les camions, les bus, même le nombre de passagers dans les bus et les piétons, pour savoir quel est le pourcentage des cyclistes qui passent. Alors nous avons découvert, c'était incroyable, que déjà aujourd'hui, on arrive à 15%, voire 20% dans certains cas.
20% de cyclistes contre 3% seulement au niveau national, c'est un énorme succès. Mais attention, des pistes ont déjà été démantelées à Saint-Étienne, Quimper, Besançon, Argenteuil, parfois 3 jours seulement après leur mise en place, comme sur l'avenue du Prado à Marseille. Alors le collectif Vélo Île-de-France les surveille comme le lait sur le feu.
Parce que la tentation de revenir en arrière est très forte.
Et les cyclistes ne sont pas seuls dans ce combat, ils peuvent compter sur le soutien des électeurs attentifs à la qualité de l'air.
28,5%, c'est l'écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes du secteur privé, selon une étude de l'INSEE publiée hier. Principaux facteurs d'explication, les femmes sont davantage en temps partiel, 30% contre 8% pour les hommes. Des accusations extrêmement graves pour la droite, la preuve d'une justice aux ordres pour la France insoumise et le Rassemblement national. Les propos de l'ancienne procureure du parquet national financier font beaucoup réagir.
Éliane Houlette a publiquement révélé les pressions hiérarchiques qu'elle dit avoir subies lors de son enquête dans l'affaire Fillon.
Pression venue selon elle du parquet général, son autorité de tutelle. Voilà ce qu'a dénoncé l'ex-magistrate lors d'une audition par la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice. Justin Morin.
Jusqu'à maintenant, Éliane Houlette avait toujours fait preuve d'une extrême prudence dans ses rares déclarations. Cette fois, elle n'y va pas par quatre chemins. La magistrate dénonce les pressions hiérarchiques, non pas celles du ministre de la Justice ou de ses collaborateurs, elle assure n'en avoir jamais subi, mais celles de son autorité de tutelle, la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault. Lors de son audition, la magistrate a réglé ses comptes avec elle. Elle évoque un contrôle étroit, des demandes de transmission rapides concernant les avancées de l'enquête, les auditions, dans les faits, la remontée d'informations globales sur les dossiers sensibles et légaux. Mais lors des investigations visant le couple Fillon, Éliane Houlette estime que c'est allé trop loin. Surtout, la magistrate révèle que le parquet général a insisté pour qu'elle ouvre une information judiciaire. En clair, qu'elle passe le relais à un juge d'instruction. Elle a fini par accepter, ce qui a permis d'accélérer la procédure et de mettre François Fillon en examen avant le vote d'une loi sur la prescription. Le texte aurait permis à l'ancien Premier ministre d'échapper aux poursuites. Catherine Champrenault, la procureure générale de Paris, rejette ces accusations. Elle dit regretter que le fonctionnement normal du ministère public soit assimilé à des pressions.
Et à ce sujet, ne manquez pas la réaction à venir de l'avocat de François Fillon, maître Antonin Lévy. Il sera au micro de Mathieu Béliard à 6h40.
La fronde contre Amazon s'intensifie. Un entrepôt XXL doit voir le jour dans les prochains mois à Colombier-Saunieu, dans la banlieue de Lyon.
Où de plus en plus d'associations et de citoyens s'opposent à cette implantation qui ferait, selon eux, exploser les nuisances routières. Et campagne électorale oblige, les candidats aux municipales se joignent désormais au combat contre le géant américain. Reportage de notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon.
Ça se passe mercredi devant le bâtiment de la métropole de Lyon. Des activistes pro-climat empilent des centaines de cartons pour protester contre la future implantation de l'entrepôt Amazon à 2 pas de l'aéroport Saint-Exupéry. Un entrepôt géant de la taille de 22 terrains de foot et un scandale climatique pour Adrien Montagu du collectif Alternatiba.
Que ça démultiplie les nuisances du trafic routier, l'augmentation du fret aérien aussi, puisque le fret aéroporté pour Amazon est une de ses plus-values très fortes pour permettre de faire des livraisons ultra rapides. Donc on va avoir une augmentation très nette des nuisances à ce niveau.
Et désormais, ce sont les politiques en pleine campagne électorale qui montent au front contre le géant américain qui pourtant promet la création de 2000 emplois. Après le candidat écologiste, c'est au tour de David Kimmelfeld, président sortant de la métropole et candidat dissident La République En Marche.
Certains vont dire oui, mais attention, ça va créer des emplois. Mais c'est le double d'emplois que l'on détruit par ailleurs. Il faut tout faire pour préserver nos commerces de proximité, nos artisans. Donc moi, il est hors de question qu'une métropole comme la nôtre vienne accompagner une implantation de ce type.
Voilà, et si une collectivité aussi influente s'y oppose, il sera difficile pour Amazon qui a déjà obtenu un permis de construire, mais qui doit faire face à un appel de ne pas en tenir compte. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
On découvre tous les jours des effets secondaires étonnants du coronavirus. Effet positif pour une fois. Nous avons profité du confinement pour faire du tri à la maison.
Une bonne nouvelle pour les communautés Emmaüs. Après avoir souffert de la période du confinement, entrepôts fermés, ventes au point mort, et bien les bénévoles reçoivent désormais un nombre considérable d'objets.
À Agno, en Alsace, où s'est rendu Arthur Mbaché, il y a 3 fois plus de dons que d'habitude.
Balai incessant sur le quai de déchargement, voilà un lustre, une caisse de DVD, une table.
Là, on est plein de travail.
Les compagnons d'Emmaüs essayent de suivre dans le coffre de Jean-Marc un vieux lavabo.
Parce qu'avec le confinement, on a fait des rangements, on a mis des choses de côté. Et puis voilà, comme on ne pouvait pas partir ailleurs, pas faire de courses, pas aller se promener, on a profité pour ranger la cave, pour débarrasser le grenier.
Et par exemple, là...
Sur une feuille punaisée au mur, le décompte quotidien des dons.
80, 90, 100... 125 voitures.
Alors c'est l'habitude, important. C'est
une quarantaine de voitures.
Christophe Ripand d'Emmaüs à Agneau.
Il faut que ça dure. Nous ne vivons que du don et du produit de ces dons. C'est l'idée première de l'abbé Pierre, c'est-à-dire qu'on accueille ici les personnes et pour pouvoir les accueillir, il y a une activité de recyclage, de tri qui se fait devant.
Pour absorber tous ces dons post-ménage de printemps du confinement, la communauté est ouverte même le dimanche jusqu'à fin août. Agneau, Arthur Enbaché, Europe 1.
Pour la première fois depuis des semaines, des applaudissements retentiront ce soir à l'Accor Hotel Arena de Paris.
2000 spectateurs et une quarantaine d'artistes sont attendus pour la soirée Tous Ensemble pour la musique, diffusée en direct sur France 2. C'est le premier gros événement musical depuis le confinement. Masques et distanciation sociale seront exigés, ce qui n'enlève rien à la patience du public comme des artistes. Angèle Châtelier.
Laura fait le voyage depuis Lille.
Ça va faire du bien de rentrer dans une salle de concert, faire ce que j'ai pas pu faire pendant 2 mois. Quoi.
Impossible pour elle de manquer ce premier concert déconfiné à l'Accor Hotel Arena ce soir. Pascal Obispo, Catherine Ringer, Vianney, une quarantaine d'artistes en tout sur scène devant 2000 personnes seulement. La salle peut pourtant en accueillir 10 fois plus. Et puis, interdiction de se coller aux autres en fosse. Tout le monde assis, masqué, un siège de distance obligatoire entre chaque groupe de 2 personnes. Ce sera sûrement déconcertant à de mes gizmos du groupe Trio, mais il lui tarde d'y être.
Ça va être étrange, ouais. Mais bon, c'est mieux quand même, je pense, que de jouer dans une salle vide. On va s'adapter.
Ça va vous faire quoi, à votre avis, d'entendre de nouveau des applaudissements?
C'est toujours galvanisant et c'est ça laisse présager que les choses vont mieux.
La chaleur des concerts manque aussi à Elisa du groupe Elite G, heureuse de retrouver le public, même masqué.
Ça nous a détendu tout de suite de savoir qu'on allait pouvoir être avec des personnes physiques, quoi. Ça fait plaisir.
Les artistes n'interpréteront que 2 ou 3 chansons chacun. Un début pour eux comme pour le public, un retour à la vie normale pour le live.
Un sujet de Angèle Châtelier.
Europe 1, il est 5h12.
C'est l'heure de monter sur nos grands chevaux avec le pari gagnant de Thierry Léger. Je voulais laisser un peu de musique. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Il y aura des courses ce soir en semi-nocturne à Rouen-Mocanchy. Et mon pari gagnant sera le 612, Gala de Manche. D'une régularité de métronome, cette jument sérieuse et maniable ne peut rêver meilleures conditions de course. Elle sera d'ailleurs pour l'occasion pour la première fois déférée des 4 pieds. Et sans ses 4 fers, elle doit pouvoir faire un plus, ce qui lui permettra ainsi de remporter sa 3e victoire de sa courte mais déjà prometteuse carrière. Alors notez bien, pour ce soir à Rouen-Mocanchy, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 12, Gala de Manche.
Merci Thierry Léger et à tout à l'heure pour vos pronostics du quintet. Europe 1. Restez avec nous dans moins d'une minute, la fine équipe du Pressing va vous raconter les meilleurs articles à lire ce matin dans la presse. Très bon réveil à tous.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
5h14 sur Europe 1, votre pressing ouvre ses portes, les articles les plus insolites, repassés et à mi-donner par Omblin Roche et Paul Lassen qui nous a rejoint. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
On commence avec vous, mon
cher
Paul.
Vous ne me demandez pas si je vais bien ce matin, ça me déçoit beaucoup.
Non, on est vendredi,
vous allez bien, forcément.
Je vais très bien, merci Omblin.
C'est rassurant.
Alors ce matin, le Huffington Post nous révèle qu'Amazon a mis en place un système pour faire en sorte que ses employés respectent une distance de sécurité face au coronavirus. Le dispositif s'appelle Distance Assistant. Il repose sur une caméra et un capteur reliés à un écran. Écran placé à des endroits très fréquentés de l'entrepôt. Alors ces caméras, elles retransmettent en direct ce qu'elles filment sur ces fameux écrans de manière à ce que les salariés puissent se voir. La particularité, c'est qu'ils se voient avec autour d'eux un cercle vert ou un cercle rouge.
Alors,
ce cercle vert... Il se dessine en réalité augmentée autour de ses salariés. Dès que l'intelligence artificielle les repère, c'est donc l'intelligence artificielle qui est intégrée au système de caméra, si les 2 personnes se croisent à plus d'1,80 m, le cercle autour des salariés reste vert. Si la distance se réduit et fait moins d'1,80 m, ça passe au rouge. C'est-à-dire qu'on vous signale, si vous êtes en distance sanitaire bonne
ouais, ou mauvaise.
Ou mauvaise. Ou mauvaise.
Alors, on envoie une décharge électrique si jamais vous approchez trop.
Voilà. Alors, Amazon développe ça. Pour l'instant, le distance assistant n'est déployé que dans certains entrepôts, mais l'entreprise souhaite étendre le dispositif à d'autres établissements. Je précise que tout ça se passe pour le moment uniquement aux États-Unis. Mmh. Alors, il y a beaucoup de polémiques autour du fichage d'Amazon de ses salariés. Donc, Amazon en France a réussi à résoudre le conflit qui l'opposait à ses salariés, mais aux États-Unis, ce n'est pas vraiment le cas. Les mesures que le géant américain prend afin d'assurer la sécurité de ses salariés, notamment ceux qui bossent dans les entrepôts, sont scrutées de très près. Le centre de distribution de Kenosha dans le Wisconsin, par exemple, pourrait être fermé par les autorités américaines si Amazon n'accentue pas ses efforts en matière de tests, de nettoyage et de fourniture de masques obligatoires. Donc c'est aussi pour ça qu'Amazon entreprend de nouvelles initiatives pour la sécurité sanitaire de ses employés. Donc on en parlait. Mm-hmm. Ce système, nouveau système qui s'appelle Distance Assistant, soulève la problématique de la surveillance des employés. D'autant que la firme n'est pas la meilleure élève dans le domaine, je le disais. En 2019, on le rappelle, Amazon a déposé le brevet d'un bracelet qui permet de surveiller précisément l'activité et les temps de pause de ses salariés. Donc Amazon qui contrôle ses salariés, même pour la sécurité sanitaire, c'est à lire sur le Huffington Post.
Oui, et puis on savait que tout est chronométré hein, pour les salariés d'Amazon. Le retrait des colis, le dépôt des colis, tout est absolument compté à la seconde près. Avec, je crois, si je me souviens bien, une statistique, une courbe de productivité.
Absolument.
Voilà,
c'est
effrayant.
C'est le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul Lassen.
Ou le monde d'après, ce qui est encore plus effrayant.
On dit Roche, à vous.
Une histoire de baiser qui tourne mal.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser.
Un baiser déposé sur les lèvres de Martine, une histoire racontée par le Daily Mail, relayée par le magazine Closer. Tout avait bien commencé entre Martine et Giovanna. Nous sommes en mai 2019.
Martine est un homme.
Martine est un homme, Martine est anglais.
Ah, Martine.
Pardon, effectivement, Martin. Nous sommes en Angleterre. Donc Martine et Giovanna. Nous sommes en mai 2019, les deux tourtereaux se rencontrent sur Internet, ils se plaisent, se font la cour, échangent des jours durant, des messages romantiques et la passion commence. Forcément, quand vient le moment de la rencontre, dans la réalité, deux mois plus tard, Martine, du haut de ses 45 ans, est nerveux. La soirée d'été est belle, ils se plaisent, ce qui devait arriver arriva, comme dans un film hollywoodien. Martine et Giovanna s'embrasse. Mais voilà, Giovanna a un secret difficile à caser lors d'un dîner aux chandelles entre deux coupes de champagne. Giovanna est atteinte d'un herpès à la bouche.
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pire.
Un herpès à la bouche, c'est pas top, vous allez voir. Deux jours plus tard, Martine commence à tousser, puis il développe des symptômes similaires à ceux d'une grippe et dans sa bouche, ça se complique, des petites plaies apparaissent, le diagnostic tombe. Martine souffre d'un herpès. L'hôpital lui prescrit un traitement. Pauvre Martine, la maladie s'aggrave, il est incapable de se nourrir ou de quitter son appartement à cause de la douleur. Lui qui aime tant faire du vélo n'ose plus chevaucher sa bicyclette, de peur que la chaleur et le stress ne provoquent des éruptions de boutons. Pour affronter la maladie, il a besoin d'un soutien psychologique désormais. Bref, toute son existence est bouleversée. Il est persuadé que c'est Giovanna qui lui a transmis son herpès. Il la quitte, bien évidemment, dès l'apparition des symptômes, mais il va encore plus loin. Il est vraiment remonté, il engage des poursuites. Martine réclame à Giovanna près de 145 000 euros de dédommagement pour négligence.
C'est cher le bisou.
Elle devait m'informer, dit-il. Je n'ai pas pris des risques de mon plein gré. Il estime que 110 000 euros seront nécessaires pour payer son traitement jusqu'à l'âge de 79 ans. Le reste servirait à couvrir les revenus perdus à cause de l'herpès et de ses conséquences.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer.
Le baiser empoisonné, c'est-à-dire dans Closer, dans le magazine Closer aujourd'hui.
Vous avez de saines lectures, ma chère Omni Roche. Merci beaucoup.
C'est le mot, saine lecture.
C'est ça aussi le monde d'aujourd'hui, c'est faire des procès quand on a une petite maladie qui apparaît.
Ouais, terrible.
Les amis, c'est avec le cœur lourd que je dois vous annoncer une triste nouvelle.
Décidément.
Nous avons appris avec stupéfaction le décès de Maurice.
Ah.
Sa vigueur, son regard vif et surtout sa voix de ténor nous manqueront à tous. Et oui, tragique nouvelle. Maurice Lecoq n'est plus, nous apprend ce matin Ouest France. C'est une star de la ruralité qui vient de nous quitter, un symbole des traditions rurales, un emblème de la lutte contre l'urbanisation galopante. Voilà ce qui a rendu Maurice célèbre dans le monde entier, ce cocorico matinal qui marquait le lever du jour sur l'île d'Oléron. Maurice, Momo pour les intimes, était connu pour son coffre, un chant fier, puissant et vigoureux, un chant de bonhomme qui agaçait au plus haut point les voisins de Madame Fesseau, la propriétaire du coq. Ces derniers,
c'est pas une lumière, hein.
Des touristes, résidents occasionnels, avaient engagé des poursuites judiciaires l'été dernier pour faire taire définitivement le beau gallinacé. Au début, Madame Fesseau a bien tenté quelques aménagements pour apaiser les tensions. Elle avait installé des cartons pour empêcher la lumière du jour de pénétrer dans le poulailler. Rien n'y a fait, Maurice était réglé comme une horloge. Ouais. Cocorico, chaque matin à 6h pétante. La propriétaire a ensuite tenté d'insonoriser le poulailler à l'aide de boîtes à œufs. Insuffisant, ont estimé les charmants voisins. Madame Fesseau, elle-même chanteuse, a donc décidé de ne pas se laisser museler. Elle a lancé une pétition, 140 000 signatures. Une marche pour Maurice a été organisée sur l'île d'Oléron. Même le maire de la commune s'est mobilisé. Il a pris un arrêté municipal pour défendre la ruralité de sa commune. Après plusieurs semaines de lutte, d'articles dans la presse du monde entier, même dans le New York Times, l'affaire a fini par être tranchée par la justice. Oui, Maurice pourra continuer à chanter Cocorico. Victoire. Je suis sans voix, on leur a volé dans les plumes, s'était réjouie Madame Fesseau, qui décidément a le sens de la formule. Mais voilà, Maurice était malade depuis plusieurs mois. Il s'est éteint pendant le confinement. On l'a retrouvé mort au pied du poulailler. On n'a rien pu faire, se désole la propriétaire, qui se dit très peinée. Elle a préféré attendre la fin du confinement pour annoncer la triste nouvelle, car, dit-elle, le Covid était plus important que mon coq. C'est une triste nouvelle.
Oui.
Moi, je suis très triste. Hein. J'aimais beaucoup Maurice. Il était très, très beau, avec une crête magnifique, bien en chair. C'est vraiment, je suis vraiment très triste. Voilà pour le pressing. Merci, Paul Lassen.
Merci, mon poulet.
Oui. Oh là là. Il est temps qu'on parte en week-end. Voilà. Dans un instant, c'est les doigts dans l'assiette. On va aller dans l'antre de Rungis, au pavillon des volailles, retrouver Gino et ses canards.
C'est QFD. À 5h25 sur Europe 1, les doigts dans l'assiette, le quotidien de ceux qui nous font manger.
Bonjour Gino Catena.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous Gino. Je rappelle à nos fidèles auditeurs que vous êtes négociant en volaille et produits tripiers à Rungis. L'homme qui nous donne toujours faim même à 5h25 aïe. Du matin.
Aïe, aïe, aïe.
Comment allez-vous Gino?
Bon, écoutez, ça va. On est sur des marchés un peu compliqués, on ne sait pas trop où on va. Bon, voilà, donc on tient là-bas, on essaie d'équilibrer avec des mouvements économiques qui changent, la consommation qui se rediversifie une fois de plus. Avec, voilà, c'est très très compliqué à savoir où on va. Vous savez, quand on navigue, il faut voir clair et se donner un cap. Et là, on a du mal à tenir la barre.
Compliqué, mais bon, pour voilà, anticiper compliqué. Les besoins, les attentes des clients, c'est ça?
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on avait des pentes économiques qui étaient tombées, hein, la collectivité, la restauration. Aujourd'hui, il y a des bouts qui se rouvrent et tant mieux. Par contre, la consommation où la ménagère, entre guillemets, consomme trois fois par jour chez elle, bah, aujourd'hui, c'est plus qu'une fois parce qu'ils ont repris le boulot, parce que le snacking est reparti, parce que la restauration est repartie. Nous, on a des volumes qui sont présents, des produits à vendre, hein, puis en parlant économie, tout ce qu'on a, ce sont des produits frais, ultra frais, 5-6 jours de date de vie de consommation, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour faire un boulot en toute tranquillité. Ah bah c'est le lot de notre quotidien. Hein. Ouais. Ça fait que 40 ans que ça dure, donc c'est pas bien grave. On va y arriver.
Parlons de vos produits. J'ai cru comprendre que vous vouliez nous parler de canards ce matin.
Oui, bah, le canard, en fait, je voulais juste faire, mais sans rentrer dans des grandes phrases et des grandes spécificités, le canard est pour moi un oiseau fantastique qui a une saveur exceptionnelle. En fait, ça se regroupe sur deux plans. Le premier plan, c'est le canard maigre, le canard qu'on fait griller des filets de canard, ça s'appelle filet de canard d'ailleurs, les cuisses de canard, et ensuite il y a les femelles qui s'appellent canne ou canette, et ces femelles, ce sont les mêmes animaux qui sont plus petits, à consommation pour les plus petites familles. C'est très goûteux, c'est vraiment fantastique et c'est vraiment très 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 bon produit. Après,
Canard maigre, pardonnez-moi, c'est un canard qui n'a pas été gavé, hein, c'est ça?
Absolument, justement, j'allais venir au deuxième. Le canard gras est un canard, on dit mulard, ce sont les canards qu'on gave. Gavé, pour quoi faire? Bah, à la base, on fait du foie gras de canard. avec un canard maigre. Le foie de canard est un tout petit foie, c'est un foie maigre, d'accord.
Oui.
Et le canard gras est un foie gras. Le canard gras, donc, on le gave de manière à ce que on sorte bien sûr un foie de canard, mais on consomme aussi en même temps des magrets de canard. Oh. Et donc tout ça, ce sont des animaux qui sont des oiseaux qui sont identiques, mais en même temps qui ne sont pas destinés à la même consommation. Voilà, donc c'est sympathique, c'est bon, on le retrouve sous différentes formes. Bon, le magret de canard, vous connaissez, je pense. On peut faire des brochettes, on peut les manger plaquées, grillées, voilà.
Et est-ce que la chair du canard maigre est aussi savoureuse que celle du canard gras ?
Elle est peut-être plus juteuse, je dirais.
Ah,
savoureuse,
oui,
bien sûr, bien sûr. Ah, je dirais peut-être un petit peu plus juteuse. Bon, il faut que ce soit snacké sur la peau, un aller-retour, et effectivement, on a toute la saveur de tous ces animaux, ces oiseaux. C'est vraiment exceptionnel. Le canard est très très goûteux, comme la pintade fermière, comme les patates, comme tous les produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, en termes économiques, on va dire que c'est quand même un peu plus cher qu'un poulet, parce que la volaille est principalement représentée par le poulet et la dinde.
Ouais.
Là, le canard, la canette et la pintade sont des oiseaux qui sont destinés à on va dire la gastronomie au plus. Voilà, au plus.
Mais bon,
qui est très abordable aujourd'hui. Très très.
Encore, comme prévu, vous nous avez donné faim, Gino. Merci beaucoup d'avoir été en ligne.
Enchanté,
avec nous.
Enchanté, ça me fait plaisir.
À très bientôt.
Au revoir.
Mon cher Laurent Cabrol.
Oh là là, les questions du commissaire Magret, il y en a eu quelques-unes. Hein.
Oh.
Merci beaucoup.
Dernière question, dernier interrogatoire. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui ?
Est-ce qu'au moins vous connaissez le commissaire Magret ? Non.
C'est non, le commissaire Magret, non. Le commissaire Maigret, oui.
Voilà. Voilà, bon alors quelques poches de soleil aujourd'hui sur les Ardennes et la Champagne. Il fera assez beau dans le sud-ouest, le Limousin, les Cévennes et le bassin méditerranéen. Nous aurons des averses ou des ondées sur le littoral de la Manche, la vallée de la Loire, le Berry, la Bourgogne, la région lyonnaise, la région parisienne. Un temps d'averses, mais avec des températures qui commencent à grimper sérieusement, puisque sur la moitié sud entre 23 et 29 et sur la moitié nord entre 19 et 22 à Paris. Vous voyez que ce sont des températures en petite hausse et ça ne fait que commencer.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Hélène Zeleny.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Il est 5h30 sur Europe 1.
Hourra youpi, franchement c'est que du bonheur, très clairement c'est que du bonheur.
L'homme qui se félicite, c'est le patron d'un camping des Vosges complet dès sa réouverture demain. C'est une tendance de fond, le camping à la côte. Bientôt de nouveaux tests de dépistage du Covid-19, à la fois fiables et beaucoup plus simples à utiliser. Il suffit de recueillir la salive et le résultat tombe en une heure. Les 27 se retrouvent en sommet virtuel ce matin à Bruxelles. Au menu, le plan de relance historique des économies de l'Union. Les pays du Nord sont très réservés. Et puis on vous fera découvrir en avant-première un jeu vidéo très attendu qui arrive aujourd'hui en rayon The Last of Us sur PS4.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Tous au camping. Si les hôtels ont du mal à faire le plein, les campings, eux, sont pris d'assaut. Et on ne parle pas seulement des vacances d'été.
Oui, c'est valable aussi pour les week-ends qui arrivent. Des campings qui enregistrent des taux de réservation impressionnants, plus 45% par rapport à l'année dernière. Carole Ferry a joint un patron heureux.
Hourra youpi, franchement, c'est que du bonheur. Très clairement, c'est que du bonheur.
Ce qui donne un tel sourire à Eric Legros, c'est que toutes ses locations affichent complet pour son premier week-end d'ouverture demain. Propriétaire d'un camping dans les Vosges, il rayonne de se remettre au travail après plusieurs semaines d'angoisse.
En urgence, là, je suis en train de monter mes dernières tentes parce qu'il faut que tout soit prêt pour demain. Et honnêtement, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à avoir ce complet dès ce premier week-end sur mes locatifs. Donc, peu importe si ce soir, je vais travailler très tard avec toute mon équipe, mais c'est vraiment que du bonheur.
Les campings de bord de mer sont ceux, bien sûr, qui attirent le plus de monde. Mais contrairement à d'habitude, la clientèle française réserve également cette année dans l'intérieur des terres, selon le président du syndicat de l'hôtellerie de plein air, Nicolas Daillot.
Les départements de l'intérieur, je pense à la Bourgogne, je pense à la Franche-Comté, au Auvergne-Rhône-Alpes, ont un bon taux de remplissage. Parce que les Français, vraiment, là, veulent partir en week-end. Et surtout dans les départements de l'intérieur, très nature, dans des endroits où il n'y a pas trop de monde d'habitude.
Pour cet été, les taux de réservation sont très encourageants également et devraient permettre de compenser au moins en partie l'absence des clients étrangers.
EasyCov, c'est le nom du nouveau test de dépistage du Covid-19 qui sera commercialisé dans les prochaines semaines.
Pas d'écouvillon dans le nez comme pour le PCR, ni de prise de sang. C'est un test salivaire, totalement fiable selon ses concepteurs, mais surtout beaucoup plus simple. Le mode d'emploi avec Mathieu Charrier.
Un test au résultat beaucoup plus rapide, moins cher et moins désagréable que le test PCR. Voilà ce que promettent les concepteurs d'EasyCov. Un résultat plus rapide d'abord en une heure environ, contre 24 heures pour un test PCR. Qui plus est, EasyCov sera deux fois moins cher, facturé 45€. Et puis surtout, il est moins désagréable, car pas besoin d'enfoncer une sorte de grand coton-tige au plus profond du nez. Il suffit de gratouiller sous la langue du patient et de chauffer le prélèvement à 65 degrés avec des réactifs pendant 30 minutes. Un test qui serait donc plus facilement déployable dans les aéroports par exemple, pour tester des voyageurs en provenance de pays à risque, ou dans les équipes de sport avant la reprise de l'entraînement. Problème, malgré une première étude qui évalue l'efficacité d'EasyCov au même niveau que celle d'un test PCR, ce test salivaire ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale et puis surtout, son déploiement semble prendre plus de temps que prévu. Il ne sera finalement pas disponible avant la fin du mois.
Un paracétamol made in France, le gouvernement veut réimplanter chez nous la chaîne de production de cette antidouleur. D'ici 3 ans, 200 millions d'euros vont être débloqués pour financer les infrastructures de production. La loi sur la haine en ligne, censurée par le Conseil constitutionnel, le texte porté par la députée En Marche Laetitia Avia, prévoyait l'obligation pour les plateformes et les moteurs de recherche de retirer sous 24 heures les contenus illicites, avec à la clé des amendes dépassant le 1 000 000 d'euros. Pour le Conseil, certaines dispositions nuisent à la liberté d'expression.
150 citoyens, 150 propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Après 9 mois de travaux, la Convention citoyenne se réunit à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour adopter ces propositions qui pourront faire l'objet de projets de loi ou même de référendums.
Par exemple, limiter la vitesse à 110 sur autoroute, rendre obligatoire la rénovation énergétique des bâtiments, limiter la climatisation ou encore interdire la pub sur les produits les plus polluants.
Europe 1, il est 5h34.
Les dirigeants européens se retrouvent en sommet ce matin, sans doute le dernier en visioconférence et le premier consacré à la relance de l'après-crise.
La Commission a proposé un plan de 750 milliards d'euros avec un endettement commun. Mais les pays du Nord, surnommés les frugaux ou les radins, restent très réticents à l'idée de payer pour ceux du Sud. C'est notamment le cas des Pays-Bas. À Bruxelles, Isabelle Horry.
Avant chaque réunion européenne, le Premier ministre des Pays-Bas passe la journée à débattre devant son Parlement. Et les députés ne l'épargnent pas, y compris dans son propre parti. Arne Mulder est un élu libéral.
C'est très difficile pour moi d'expliquer qu'il faut aider un pays comme l'Italie. Le travail au noir, il représente un quart de l'économie. Pourquoi nos contribuables devraient payer pour un pays qui ne fait pas rentrer ses propres impôts ?
Pourtant, la prospérité des Pays-Bas repose sur leurs exportations. S'ils veulent des clients pour leurs services ou leurs fleurs, ils ont besoin du Sud. Case dirige un bureau d'études sur le vélo, il s'inquiète pour sa succursale à Turin.
Évidemment, ce qui se passe, ça n'est pas bon pour les affaires. Parce qu'en Italie, maintenant, les Pays-Bas sont vus comme un pays radin et qui n'aurait aucune empathie. Et ça n'est pas vrai.
Paolo, lui, aimerait réconcilier italien et néerlandais. Cet économiste de 23 ans a les deux nationalités.
Les néerlandais sont vraiment doués sur le plan économique, donc les Italiens devraient s'inspirer de leur exemple. Mais en même temps, ils sont un peu trop brutaux. Il faut qu'ils apprennent à mieux communiquer.
Ces derniers jours, plus de 6 néerlandais sur 10 disaient toujours franchement non au plan de solidarité européenne.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. À l'Élysée, on précise que ce sommet sera un tour de chauffe indispensable pour prendre la température. Aucun accord n'est attendu.
Rendez-vous à 8h15. Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, sera l'invitée de Sonia Mabrouk.
Couper tous les ponts avec la Chine est une option. Voilà la dernière sortie en date de Donald Trump. Il n'exclut pas de cesser les relations avec Pékin, y compris économiques. Un durcissement de ton alors que John Bolton, son ex-conseiller à la sécurité nationale, l'accuse d'avoir cherché l'aide de la Chine pour gagner sa réélection en novembre dans un livre qui paraît la semaine prochaine.
Rarement un jeu vidéo aura suscité autant d'attentes. Sorti aujourd'hui de The Last of Us, deuxième partie sur la console PlayStation 4 de Sony.
Une aventure dans un futur post-apocalyptique dont le premier épisode, sorti il y a 7 ans, s'est vendu à 17 millions d'exemplaires dans le monde. Cette suite est-elle à la hauteur ? Pour en avoir le cœur net, Clément Le Saffre l'a testé pour nous.
Je vais les trouver. Et je vais les tuer.
The Last of Us, c'est d'abord une histoire de vengeance. Ellie, l'héroïne, se lance à corps perdu dans une odyssée à travers les États-Unis de 2038, dévastée par une pandémie qui transforme les humains en mutants assoiffés de sang. Quant aux survivants, ils forment des milices qui font régner la terreur.
Comment tu nous as trouvés ?
Tu m'arrêteras pas.
Alors attention, The Last of Us est très violent. L'hémoglobine coule à flot et le jeu est d'ailleurs interdit aux moins de 18 ans, ce qui n'empêche pas le scénario d'être bouleversant. Toute la force du jeu réside dans l'équilibre entre séquences à vous glacer le sang et moments d'émotion pure. Et puis, The Last of Us est une merveille visuelle. Les développeurs ont reconstitué la ville de Seattle avec bâtiments effondrés, voitures abandonnées et nature qui a repris ses droits. Malgré quelques longueurs, on prend un vrai plaisir à explorer ce monde à la fois terrifiant et fascinant.
The Last of Us, sorti aujourd'hui sur PS4.
C'était le journal post-apocalyptique d'Hélène Zélani. Merci Hélène. On vous retrouve pour une édition enjouée à 7h.
Europe 1, il est 5h38.
Les courses avec les pronostics du quintet Thierry Léger. On va où cet après-midi Thierry?
C'est sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchy que se disputera ce quintet réservé exclusivement aux trotteurs âgés de 5 ans et parmi les 14 partants. Priorité aux plus riches, avec le numéro 14, Fidèle Royal, pour lequel son entraîneur Jean-Michel Bazir a choisi cet engagement, de préférence à une autre course, disputée la semaine prochaine à Vichy. 50 Black, le numéro 10, cinquième d'un quintet le 5 juin, est également une priorité. Ensuite, méfiez-vous du numéro 13, Fidelity, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec, elle qui s'était imposée auparavant par deux fois en y ajoutant la manière. Attention aussi au numéro 6, Freeman, irrésistible en dernier lieu à Mort-de-Bretagne et qui sur sa lancée peut doubler la mise. Enfin, les numéros 7, Festif Charmant, 12, Fidèle du Goutier, 9, Fédogriffe et 8, Follet Buissonnet sont autant de possibilités pour les places. Mon pronostic, 14, 10, 13, 6, 7, 12, 9 et 8.
Pronostic à retrouver sur notre site europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain dans la matinale de Bernard Poirette. Restez avec nous, dans un instant nous serons en ligne avec l'organisatrice des 48 heures de l'agriculture urbaine, un festival d'un nouveau genre qui va se tenir dans 12 villes ce week-end. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Julien Pierce.
Les 48 heures de l'agriculture urbaine vont se tenir ce week-end dans 12 villes de France. Pour en parler, Julien, votre invité, Éline Lambert, responsable de ce festival organisé par la SAUGE, la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée.
Bonjour Éline Lambert.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. C'est quoi les 48 heures de l'agriculture urbaine? Qu'est-ce qu'on y fait?
Les 48 heures d'agriculture urbaine, c'est un grand festival de jardinage urbain qui a lieu dans toute la France, dans 12 villes cette année au mois de juin, et aussi en Belgique, à Tournai. Et l'idée, c'est de fédérer tous les acteurs de l'agriculture urbaine, que ce soit des professionnels spécialistes du sujet ou des amateurs qui aiment tout simplement cultiver dans un jardin partagé ou sur leur balcon.
Il y a des ateliers, des animations de prévues?
Oui, c'est ça. En fait, le festival s'axe autour de trois grandes thématiques. Premièrement, dans chacune des villes, il y a un grand lieu de rassemblement qui va, par exemple, avoir un petit moment musical. On va aussi avoir des ateliers de botanique, de pépinière, de permaculture. Il va aussi avoir des végétalisations dans l'espace public, dans des rues, des places qui vont être généralement gérées par des collectifs d'habitants. Et après, il va y avoir toutes sortes de visites de lieux emblématiques de l'agriculture urbaine, donc des fermes urbaines, des tiers-lieux, etc.
Mais à part si on a un balcon aujourd'hui et encore, il faut avoir un grand balcon, est-ce qu'on peut jardiner en ville?
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de promouvoir avec les 48 heures de l'agriculture urbaine et avec l'association qui a créé ce festival, la SAUGE. L'idée, c'est que à sa petite échelle, on peut tous jardiner, même si ce sont que des aromatiques sur son bord de fenêtre ou quelques plants de tomates dans sa cuisine. L'idée, c'est vraiment de comprendre le cycle des saisons, de comprendre comment ça fonctionne quand on met une petite graine et qu'elle va pousser et donner une plante. Donc, on peut vraiment tous faire ça à son échelle. Et en plus, de plus en plus, on voit des jardins partagés et des végétalisations de rue qui voient le jour dans toutes nos villes.
Et aujourd'hui, on peut mener une vie active, avoir un travail prenant et cultiver par ailleurs, être autonome en fruits et légumes?
Être autonome en ville, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a quand même plein de systèmes à disposition pour nous permettre de consommer localement sans forcément produire ses propres légumes, les AMAP, etc. Après, en s'organisant avec ses voisins, si on a la chance d'avoir un jardin partagé, comme je le citais en exemple, on peut effectivement réussir à produire un petit peu, en tout cas, de légumes et du moins des aromatiques et des petites choses plus simples à cultiver en ville.
Depuis le déconfinement, les magasins de jardinage font le plein. Leur fréquentation a augmenté de plus de 60% par rapport à la même période l'année passée. Est-ce que ça vous étonne ?
non, ça ne m'étonne pas que ce soit des personnes qui avaient le plaisir de profiter de leur jardin pendant le confinement ou des personnes qui justement étaient vraiment totalement privées de nature pendant le confinement. Je pense que une grande partie des Français se sont quand même rendu compte qu'on a besoin de nature pour être bien dans notre vie. Et nous-mêmes, on le voit à la SAUGE, donc l'association créatrice des 48 heures, on a une pépinière sur notre ferme urbaine et on n'a jamais vendu autant que pendant le confinement. On avait donc établi un système de vente en ligne avec livraison à domicile qui a connu un vrai succès.
Vos ventes ont donc augmenté. Est-ce que vous avez également de nouveaux adhérents dans votre association et de nouveaux profils qui arrivent ?
Oui, tout à fait. Avant, pour avoir des bénévoles, on passait par des plateformes de bénévolat qui proposent des missions à la journée. Et on se rend compte que maintenant, depuis le confinement, on est tellement suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On était à 3000 abonnés avant le confinement. Maintenant, on dépasse les 5400. Donc, on est très bien suivi sur les réseaux, ce qui nous permet de passer tout simplement par nos propres réseaux pour avoir des bénévoles. Et tous nos créneaux de bénévolat sont pris d'assaut, si bien que là, on n'a pas de créneau avant le mois de juillet pour que les gens, tout simplement, viennent sur notre ferme urbaine, filer un coup de main et apprendre avec nous.
Vous voyez arriver des personnes qui ont des profils différents, qui auparavant ne portaient pas une attention particulière à la nature ?
Oui, tout à fait. Et ça, c'est le cas depuis le début de l'existence de la SAUGE et encore plus maintenant. Nombreux sont les bénévoles qui sont en train de se demander s'ils ne voudraient pas entamer une reconversion professionnelle. C'est souvent le cas parmi nos bénévoles. Et on sent que pendant le confinement, il y a eu plus de personnes qui ont eu le temps de se poser cette question et qui encore maintenant sont au chômage partiel et qui du coup ont le temps de franchir le pas et de venir nous voir découvrir un petit peu le monde de l'agriculture urbaine avec nous.
Au-delà de l'aspect ludique de jardiner, est-ce que c'est un enjeu de société aujourd'hui selon vous de ramener des potagers, des jardins au cœur des villes ?
Oui, tout à fait. Déjà, il y a un grand enjeu de biodiversité, puisque le fait de ramener des potagers, des fleurs en ville permettent aux abeilles et aux oiseaux, par exemple, de revenir en ville. Deuxièmement, il y a quand même cette idée que si on arrive à reconnecter à la nature et au cycle des saisons, même quand on habite en ville, on aura forcément plus envie de comprendre cette nature et aussi de la protéger. Donc l'idée de la SAUGE, c'est de commencer par reconnecter les gens avec la base de la nature et de la production alimentaire pour ensuite entamer une transition écologique dans nos gestes du quotidien.
Mais en parallèle de ça, on a des agriculteurs professionnels qui souffrent, dont beaucoup arrivent à peine à vivre de leur travail. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là ? C'est-à-dire que d'un côté, les Français adorent jardiner et de l'autre, nos agriculteurs sont de moins en moins nombreux.
Oui, mais pour le coup, une des choses qu'on cherche vraiment à atteindre avec les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est de créer un petit peu d'une découverte et un petit peu voire même des vocations chez les gens, chez les urbains, pour retourner vers le monde paysan, le monde agricole. On n'estime pas du tout que l'agriculture de demain se fera uniquement en ville, pas du tout. L'idée, c'est que l'agriculture urbaine et l'agriculture rurale sont complémentaires et que l'agriculture urbaine est un petit peu une porte d'entrée pour les citadins vers une agriculture rurale nécessaire.
Merci beaucoup Éline Lambert d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la responsable des 48 heures de l'agriculture urbaine qui vont avoir lieu ce week-end dans plusieurs villes de France, 12 au total, événement organisé par votre association La SAUGE. Très bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, c'est la partition d'Omblin Roche, la chronique musicale de ce 5-6. Au programme ce matin, Omblin, un homme traqué.
Oui, poursuivi par des groupies avec des paires de ciseaux. Elle voulait à tout prix une mèche de ses cheveux.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
5h48 sur Europe 1, l'heure de la partition d'Omblin Roche. Le 25 avril dernier, nous avons célébré les 45 ans de sa disparition. Mike Brandt avait une voix d'or, du charme à revendre, un séducteur maudit. Jamais il n'a caché son ambition. Je serai vedette ou clochard, disait-il. Le succès, les filles, l'hystérie des groupies, la gloire, Omblin, causeront sa perte.
Il est un diamant brut, Julien, quand il est découvert à Téhéran, en Iran, par Sylvie Vartan et son ami et secrétaire de l'époque, le chanteur Carlos. Sylvie Vartan laisse son numéro de téléphone à Mike Brandt au cas où le chanteur israélien qui ne parle pas un mot de français se décide, tente sa chance. Et deux mois plus tard, au beau milieu de l'été 1969, il débarque à Paris.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit.
C'est le parolier Jean Renard qui se charge de son début de carrière.
Il devient son père spirituel et le fait enregistrer une chanson construite sur mesure, Laisse-moi t'aimer, avec des paroles écrites en phonétique. Deux ans vont suffire à faire de lui une star. Lorsque l'année 1971 commence, ses disques se vendent par milliers et toutes les femmes sont folles de lui.
Coup de pub supplémentaire, victime d'un accident de voiture en février, Mike Brandt est en une de François.
Cet événement qui aurait pu être tragique va accroître sa popularité. Jean Renard ajoute des bandages et des tuyaux sur Mike Brandt dans son lit d'hôpital pour prendre une photo. Le chanteur est hilar, le cliché est envoyé à la presse et tout le monde ne parle plus que de ça.
Mais dans la lumière, des yeux crient bien plus fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais...
Les galas et les émissions télé ensuite s'enchaînent. En mai 71, il se rend en Italie, assiste au festival de musique de San Remo et découvre la chanson Que Sera par le groupe Ricky et Poveri.
À son retour, Mike Brandt ne pense plus qu'à cette chanson et souhaite l'adapter. Jean Renard refuse, Mike Brandt insiste. Jean Renard finit par accepter, mais le 45 tours est rangé dans un tiroir. Ce désaccord est le signe avant-coureur que la relation entre les deux hommes se détériore peu à peu. Mike Brandt a des envies de liberté, il a besoin de choisir ses chansons, décider où et quand il se produit en public.
Son désir d'assurer la première partie de Dalida à l'Olympia contre la vie de Jean Renard va précipiter la fin de leur collaboration. Le 23 novembre 1971, c'est le jour J pour Mike Brandt.
Pas vraiment paralysé par le trac, il monte sur la scène de l'Olympia avant Dalida, mais comme le craignait Jean Renard, sa prestation tourne à la catastrophe, sans doute à cause de son manque d'expérience. Mike Brandt s'attire les foudres des critiques, il est moqué par le public. Il mettra 3 mois à s'en remettre et ne chantera plus jamais dans une salle parisienne. Désespéré, c'est à ce 45 tours, mis de côté quelques mois plus tôt, qu'il doit son retour en grâce. Le succès est immense. Avec Qui Sera, Mike Brandt reprend confiance en lui.
Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu, je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour. J'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre. Essayez de me le dire. Qui saura, qui saura, oui. Vous, mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le-moi. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre notre joie. Je n'avais qu'elle sur terre et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Vous, mes amis, le soleil vous inonde. Reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. sait bien que le bonheur n'existe pas.
Mike Brandt en 1972 avec Qui sera. Depuis le 5 juin, vous retrouvez une anthologie de ses chansons la plus complète parue à ce jour avec en bonus cette version inédite de ses titres.
C'était la partition d'Omblin Roche.
5h56, presque, la matinale d'Europe 1 se poursuit. Julien Pierce, Mathieu Béliard.
Bonjour Mathieu.
Attendez, je branche mon casque.
Tout
va bien. Une hirondelle a fait le printemps. Mais oui, bien sûr que j'adore. Je peux
quand
pas dire fan.
Je te vois.
Je connais pas assez, mais Mike Brandt, j'ai rien entendu acheter.
Ouais. Ah non, mais c'est, non, mais alors.
Je sens que Julien Pierce est circonspect.
On peut débattre.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est une très grande qualité, extrêmement bien produit. C'était un vrai grand artiste.
Oui. Appelez-nous, tranchez ce débat sur le hashtag Europe 1.
21.
Bon week-end, Julien.
Mike ou pas Mike.
Merci d'avoir réveillé nos auditeurs depuis tôt ce matin, depuis 5h avec Omblin sur Europe 1. C'est parti pour 3 heures d'info, 3 heures de direct. Vous le savez, ensemble, on écoute le monde changer.